la Bible des fréquentations.
Rien. Voilà. Et il faut reconnaître, et je pense qu'Yvan et Maëlys l'ont déjà montré, que notre vision des fréquentations et la façon dont on les gère doit beaucoup plus à notre éducation, à notre milieu d'église, à ce qu'on dise nos potes, qu'à la sagesse biblique. Parce qu'en fait, la Bible ne dit rien directement à ce sujet. Et je sais que c'est aussi vrai pour moi. Ça veut dire que ma vision du sujet est surtout influencée par mon éducation et par mon poste d'observation. 12 ans, j'ai commencé au GBU au moment où ils se sont rencontrés, 12 ans à voir des étudiants se fréquenter avec plus ou moins de succès, ça aide à se forger quelques opinions. J'ai des opinions sur le sujet, mais c'est la Bible qu'on veut écouter, et pas juste les conseils de mamie Marion. Mais parce que la Bible n'en parle pas directement, et que je vais extrapoler plus que ce que je fais d'habitude quand je lis la Bible avec vous, je vous le dis, j'espère vraiment que c'est la Bible qu'on va écouter et pas mamie Marion. Et pour s'en assurer, je vous encourage juste à examiner toute chose dans ce que je vais dire et retenir ce qui est bon. On a tous envie de relations profondes et authentiques. On a envie d'aimer, d'être aimé, d'être en compagnie de personnes qu'on apprécie et des gens qui apprécient notre compagnie. Et ce sont des envies saines. Elles sont là parce qu'on est relationnel, que Dieu nous a créé relationnel, parce que c'est bon qu'on ne soit pas seul. Mais le péché est arrivé dans l'histoire et tout est devenu compliqué. On ne veut pas être seul, mais les autres, c'est parfois tellement prise de tête. Particulièrement ces autres avec qui il y aurait des possibilités romantiques. L'amitié, c'est compliqué, mais pas autant que les relations amoureuses. Parce que la société a fait de l'amour romantique le nouveau sacré et parce que, comme Yvan nous l'a dit, les hormones ont leur propre loi. Tout devient plus intense et plus grave dès qu'on parle de flirt. L'imagination s'emballe, on ne sait pas comment se comporter, on en fait trop, on n'en fait pas assez, on surinterprète des trucs ridicules et tout d'un coup, ça prend toute la place dans notre cerveau. Mais la bonne nouvelle que Jésus a apportée par sa vie, par son enseignement, par sa mort et sa résurrection, elle change tout dans notre relation à Dieu, dans notre relation avec nous-mêmes et dans notre relation avec les autres, même les relations les plus compliquées. Et la clé des nouvelles relations avec les autres, c'est le concept de fraternité. Qui est dans la Bible en long, en large et en travers. Dans 1 Timothée 5, Paul s'adresse à Timothée, un jeune responsable d'église célibataire. Bon, c'était déjà quand même un gros trentenaire, mais voilà. Il l'encourage à considérer les jeunes filles de son église, donc des potentielles femmes, peut-être, vu qu'il est célibataire, de considérer les jeunes filles de son église comme des sœurs en toute pureté, en gros sans péché. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé pour ne pas fréquenter comme des païens. Considérez-vous comme des frères et sœurs et ne péchez pas les uns contre les autres. Considérez-vous comme des frères et sœurs et ne péchez pas les uns contre les autres. Et tout ira bien. Voilà. Merci. Oui, mais concrètement, comment ça marche les relations fraternelles? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre question de fréquentation, de relation? Je vous propose d'essayer de trouver des réponses dans l'épître aux Éphésiens. Non pas que les Éphésiens avaient particulièrement des problèmes de dating, mais parce que l'Épître aux Éphésiens, c'est une lettre qui parle de manière générale de la vie qui convient aux croyants. Particulièrement à partir du chapitre 4, où Paul commence le chapitre comme ceci. « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Vous, continue Paul, et c'est à vous qu'il s'adresse aussi, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes différent, vous appartenez à Dieu, si du moins c'est lui que vous avez écouté. Vous ne devez plus vous comporter comme des non-croyants qui se laissent guider, nous dit-il au verset 17, par la sottise de leurs pensées. Alors il ne faut pas comprendre de travers, hein, ce n'est pas que les non-chrétiens sont plus stupides que nous. Nous avons tous notre lot de pensées stupides, peut-être particulièrement sur cette question. Non, l'idée c'est juste que, contrairement aux non-croyants, on ne doit pas se laisser guider par nos idées stupides. On a des idées stupides aussi. Mais plutôt que d'agir selon nos idées stupides, on va agir selon l'Esprit de Dieu. Mais concrètement, on fait quoi? Ça veut dire quoi concrètement d'écouter l'Esprit Saint dans la gestion de nos relations de frères et sœurs? Et bien d'Éphésiens 4, 25 à 5, 2, Paul va donner quelques clés pour de bonnes relations dans la famille de Dieu et on va essayer de l'appliquer particulièrement à cette question des fréquentations. Donc à la fois quand on est avec quelqu'un, mais qu'on n'a pas encore décidé de se marier, c'est comme ça qu'on a défini fréquentation, hein. Mais aussi le moment avant où on n'est pas vraiment, mais on aimerait, alors voilà. Juste après le texte, juste après 5.2, au 5.3, Paul va parler de sexe, Mais on va s'arrêter avant. Mais je vous laisserai lire ça. Ok, je ne vais pas du tout changer la slide. On est toujours là et je vais lire le texte. Éphésiens 4, 25 à 5, 2. C'est pourquoi, je dis dans la version NBS, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Paul fait une liste d'attitudes en disant à chaque fois ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, parce qu'il ne suffit pas d'arrêter de faire des trucs, il faut aussi les remplacer par les mauvais comportements, par des bons comportements. Il ne les sort pas de nulle part, tout ça est le sort de l'Ancien Testament, je ne pourrais pas vous le montrer à chaque fois, mais je vous assure c'est le cas. Et il donne même quelques sources de motivation à avoir ces comportements. Notre unité dans la famille de Dieu, nous sommes membres les uns des autres, nous sommes enfants bien-aimés, on est ensemble dans la famille de Dieu. Et notre dépendance à l'Esprit, qui est en nous et qu'on ne doit pas attrister, et à Christ dont nous devons suivre l'exemple. On est ensemble en tant que chrétiens et on est ensemble aussi avec le Dieu trinitaire. Parce que nous sommes une famille et parce que nous dépendons de Dieu, voilà comment se comporter avec les personnes qui nous entourent. Je vais vous donner trois clés issues du texte et une clé finale qui sera en fait la conclusion. Clé numéro 1. Nos paroles, dire la vérité et parler bien. Verset 25, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Paul y fait ici une allusion à Zacharie 8, où Zacharie parlait de la Nouvelle Jérusalem, où chacun dira la vérité à son prochain. Or, c'est maintenant la Nouvelle Jérusalem. Elle n'est pas encore descendue du ciel, mais on en est déjà des citoyens. Et c'est donc maintenant qu'il faut arrêter de baratiner son prochain et de lui dire la vérité. Et si on était honnête dans nos relations? Et si d'abord on se disait la vérité à nous-mêmes, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre en couple ou est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait? Parce que la société, l'église, tout le monde est là, ah machin, ta copine et machin, c'est qui ton copain? Et du coup je me dis, bah a priori c'est le truc à faire. Donc moi si je m'écoute, j'en ai pas vraiment envie, mais tout le monde y va, donc j'y vais aussi. Est-ce que cette personne m'intéresse vraiment ou est-ce que c'est juste que tout le monde la trouve cool? Être honnête avec nous-mêmes, nous dire la vérité à nous-mêmes, mais surtout dire la vérité aux autres. Dire qu'on est intéressé quand on est intéressé. Et dire qu'on n'est pas intéressé quand on n'est pas intéressé. Il faut que je le redise. Dire la vérité, c'est ne pas accepter de sortir avec quelqu'un ou même d'aller chercher la relation alors que pour l'instant tu ressens rien pour la personne. Mais que tu veux juste voir. Tu veux voir quoi? Tu peux voir, alors si je sais ce que tu veux voir, tu veux voir s'il y a moyen. Mais on peut voir dans l'amitié. Et je vous assure que des milliers de personnes dans l'histoire du monde ont réussi à voir dans l'amitié s'ils voulaient être avec la personne ou pas. Ils n'ont pas eu besoin d'une espèce d'autre étape entre l'amitié et le couple. Tu peux voir dans l'amitié si la personne te convient ou pas. Si tu ressens que de l'amitié pour la personne, reste-en au stade de l'amitié. Et si tes sentiments changent, propose autre chose. Dire la vérité, c'est aussi ne pas se considérer en couple quand on n'est pas en couple. Ça te dirait qu'on prenne un café? Oui, enfin... On n'est pas ensemble, hein. C'est juste un café, hein. Juste un café pour apprendre à se connaître. Oui, 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 c'est juste pour apprendre à se connaître. Ouais, c'est bon, dans 2 ans, on est mariés. Oui, oui, c'est bon. ne riez pas, j'ai fait ça des milliers de fois. Elle est où la vérité quand vous dites quelque chose et que vous avez un autre plan derrière? Et enfin, si je partais du principe que les gens nous disent la vérité, si la personne vous dit qu'elle n'est pas intéressée, si elle était intéressée, elle vous dirait qu'elle est intéressée. Si elle vous dit non, c'est pas si t'insistes, peut-être. Non, ça veut dire non. si elle dit non, c'est qu'elle pense non. Partez du principe que les gens vous disent la vérité. Je sais que séduction, ça rime avec manipulation. Je sais aussi que parler de vérité quand on parle de sentiment, c'est compliqué, parce que des fois on ne sait même pas nous-mêmes où est la vérité, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on ressent, parce que c'est hyper vulnérabilisant d'assumer nos pensées sur ce sujet, mais ce que Dieu attend dans nos relations fraternelles, c'est l'authenticité. Ne vous mentez pas les uns aux autres, mais que chacun dise la vérité à son prochain. Et dise même des choses pleines de grâce et des choses qui édifient. Et c'est le deuxième verset pour cette partie-là. Faire attention à nos paroles, verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Je vais reparler d'un truc dont Maëlys a parlé. Faisons attention à nos paroles. Il faut que nos sujets de conversation, même nos remarques entre deux portes ou nos blagues, servent à nous rapprocher du Seigneur et à communiquer sa grâce. Bannissons, je vous en supplie, les allusions cheloues ou les sous-entendus ridicules qui visent à draguer ou qui visent juste à entretenir l'ambiguïté dans une situation où ce n'est pas utile. À une fille qui s'est maquillée, ben alors, qui tu vas voir, c'est à qui que tu veux plaire? Tu t'es mis en jupe, il y a quelqu'un ce soir qui va venir à un garçon et une fille qui parlent plus de 10 minutes à Interfac, ça va, on ne vous dérange pas, vous avez beaucoup de trucs à vous dire apparemment. je ne vais pas donner d'exemple de phrases de drague ambiguë, chelou, parce que ça me déprime d'assumer que j'ai entendu ce genre de trucs dans les GBU. Mais j'imagine que vous avez déjà des autres exemples, et puis c'est pas la peine d'insister. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, parlons dignement. Je sais qu'on ne fait jamais ça avec une mauvaise intention, hein. C'est juste tout le monde le fait, on reproduit des habitudes de langage, etc. Nous avons l'Esprit Saint en nous, parlons dignement et parlons utile. Et si vous avez du mal à savoir, comment savoir si ce que je dis c'est juste drôle, ou c'est pas drôle, ou c'est utile, etc. Je vous propose le tamis de Socrate. Est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce bienveillant? S'il y en a un de ces trois où vous répondez non, bah faites-vous rire vous-même avec vos blagues. Et juste ça sort pas, quoi. Est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce bienveillant? Si vous répondez non à un de ces trois trucs, eh bien vous ne le dites pas. Voilà. Parlons vrai et parlons bien. C'est la première clé, dire la vérité et parler bien. Deuxième clé, se mettre en colère, mais pas trop. Verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Puis, verset 31, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, et toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. C'est assez marrant que Paul parle de colère deux fois dans ce passage, comme si c'était évident que s'il y a relation, il y a colère. Parce que les gens sont énervants, n'est-ce pas? Et parce que les gens sont énervants, qu'ils nous blessent, qu'ils nous rejettent, qu'ils nous mettent la pression, et bien parfois, on se met en colère. Avec la citation du psaume 4, dans le verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas », on découvre ainsi qu'on peut être en colère et ne pas pécher. Et la clé pour cela, c'est d'avoir une colère courte. Parce qu'une colère qui dure, c'est une colère qui nous pousse à l'amertume, à la médisance et à l'orgueil. Il y a des déconvenues dans les relations. On est proche de quelqu'un et on a l'impression qu'il y a moyen, puis la personne s'éloigne. Elle a changé d'avis. On est sortis ensemble et en fait, on est obligé de mettre fin à notre histoire. On a cru que c'était la bonne personne et puis en fait, finalement, non. Vous avez le droit d'en vouloir à la personne qui vous a déçu, qui vous a blessé. Vous avez le droit d'être en colère si vous estimez qu'elle a été ambiguë. Maëlys a été en colère à un moment donné contre Ivan et c'était légitime. Vous avez le droit. Je t'aime, Ivan, tu sais. Hein. Vous avez le droit d'être en colère si quelqu'un vous a fait croire des choses ou je sais pas quoi. Vous avez le droit d'être en colère, mais un court moment seulement. N'entretenez pas votre colère en disant du mal de cette personne-là dès que vous en avez l'occasion. En vous posant comme victime, ayant l'orgueil de croire que vous n'avez rien à vous reprocher dans cette histoire et que c'est tout de la faute de l'autre, ou en devenant amer. C'est vous que vous détruisez, en fait, en alimentant cette colère. C'est le diable qui vous maintient dans la rancœur. Votre colère, notre colère, doit être courte. Courte comment? Un jour, dit Paul. Quand le soleil se couche, c'est fini, on passe à autre chose. Un jour. Parce que, spoiler 1, vous allez avoir le cœur brisé. Alors peut-être pas tous. Certains cœurs sont plus résistants que d'autres, il faut reconnaître. Mais ce sont des choses qui arrivent. Des gens vont vous blesser, des gens vont vous vexer. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Et spoiler 2, on l'a déjà dit, il va y avoir de l'ambiguïté. C'est forcé, vous êtes un groupe de jeunes gens dans la force de l'âge, avec pour certains d'entre vous, sans doute une grande envie de se mettre en couple. il va y avoir de l'ambiguïté, c'est la vie. L'idéal, en tout cas c'est celui que j'aimerais pour vous, c'est que vous ne vous en vouliez pas les uns aux autres de l'ambiguïté, en acceptant qu'en fait ça fait partie du jeu. Mais si jamais certaines attitudes ambiguës vous blessent, mettez-vous en colère. Une journée. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Votre colère doit être courte et c'est une colère qui ne doit pas se sentir supérieure, une colère qui ne doit pas dire du mal et qui ne garde pas rancune. Et la deuxième clé, elle était courte comme la colère. Troisième clé, être généreux et compatissant. Ne volez pas. Verset 28, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Paul cite ici la loi de Moïse, ne volez pas, c'est dans les 10 commandements, mais il ajoute, mais donnez. Ne volez pas, mais mettez-vous dans une situation où vous pouvez donner. Soyez de ceux qui donnent et pas de ceux qui prennent. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de relation ? Mettez-vous dans la position de la personne qui va donner relationnellement et pas qui va prendre. Ne soyez pas égoïste dans vos relations, mais altruiste. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je vous donne 3 exemples, il y en aurait plein d'autres, mais j'en donne 3. Ça va encore rappeler des trucs qui sont dits, je suis désolée. Ne développez pas des amitiés qu'avec les personnes du sexe opposé auxquelles vous pensez qu'il y a peut-être moyen. Soyez généreux dans vos relations. Vous pourriez être surpris dans vos amitiés. Le but de l'amitié, ce n'est pas le couple. Le but de l'amitié, c'est l'amitié. Si ça se transforme en couple, c'est cool, on est content, ça fait une jolie histoire à raconter des années après quand vous venez à happy dating. Mais soyez amis pour être amis et pas dans le but de pécho. L'amitié, c'est un but en soi et comme disait Maëlys, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie, même quand votre couple sera difficile. Soyez amis pour être amis. Ne développez pas des amitiés qu'avec des personnes où vous pensez qu'il y aurait peut-être moyen de finir en couple. Deuxième chose, quand vous vous mettez en couple, le reste du monde ne disparaît pas. Vous avez cette impression que le reste du monde disparaît, mais c'est faux. Le reste du monde ne disparaît pas. Il y a encore des gens, autres que votre petit copain ou votre petite copine, qui vous aiment, qui ont envie de passer du temps avec vous, qui ont besoin de passer du temps avec vous. Être altruiste, c'est ne pas se refermer sur son couple en n'ayant plus rien à faire des autres. Vous allez passer votre vie ensemble, vous pouvez bien passer une soirée avec vos potes. Vous en aurez marre à un moment donné de passer du temps ensemble. Donc, vous avez l'impression pour l'instant que chaque seconde, une seconde, limite 5 secondes passées avec votre conjoint est une seconde perdue. C'est un effet d'optique, c'est un mensonge. En vrai, vous avez tout le temps. Quand vous vous mettez en couple, le reste du monde ne disparaît pas. Et finalement, c'est agréable, l'ambiguïté. Les gens t'aiment bien, ça flirte un peu, mais pas trop, parce que quand même on est chrétien. L'ambiguïté dans les relations, c'est ce que je disais, à votre âge, c'est quasiment inévitable. Ça perd mon âge aussi, c'est quasiment inévitable. Mais entretenir l'ambiguïté sciemment, alors qu'on sait qu'on ne veut pas être avec la personne, c'est du vol. C'est du vol. On vole les émotions de la personne, on vole le temps à la personne qui, elle, s'attend à quelque chose. Si vous entretenez l'ambiguïté, alors que vous savez que vous ne voulez pas être avec la personne, ou que vous n'avez pas encore décidé, c'est du vol. Mais avec le verset 32, Paul explicite encore plus cette histoire de générosité dans les relations, parce que cette fois-ci, il parle vraiment des relations, on est moins en train d'extrapoler. Verset 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Être généreux dans ses relations, c'est être bon, compatissant ou compréhensif en fonction des versions, et se pardonner. L'idée, c'est de virer toute forme de mal et de tout remplacer par la bonté et la compassion. C'est dur de virer le mal de nos relations, c'est dur de ne pas être jaloux de celui ou de celle qui attire tous les regards, c'est dur de ne pas avoir trop de pensées sexuelles quand on discute avec telle ou telle personne, c'est dur de ne pas avoir un sentiment d'appartenance vis-à-vis de la personne vis-à-vis de la personne dont on est amoureux, même si ce n'est pas réciproque, etc., etc. C'est dur, mais c'est non négociable. C'est non négociable. Et tous ces trucs-là, tous ces mauvais mécanismes qu'on a, il faut les remplacer par la bonté, la compassion et la compréhension. Je suis compréhensif et je m'intéresse à la personne en tant que personne. Ça veut dire que je ne m'intéresse pas qu'à son corps, évidemment, j'espère que là, voilà. Mais aussi et surtout que je vais essayer de me mettre à sa place et de la comprendre dans ces moments où on est en train de se rapprocher. Et pour notre sujet, notamment comprendre les choses qu'on a discutées là et qu'en fonction de nos héritages culturels, et familiaux, on va avoir des vécus et des points de vue différents sur les relations. Et que mon vécu ne fait pas loi. Exemple pas du tout tiré de mon histoire personnelle. Imaginons que j'ai grandi dans une famille où c'est normal de parler profondément de plein de sujets très facilement. Et où j'étais proche avec mon frère et mes cousins. Discuter longtemps et de sujets profonds avec des mecs est pour moi totalement banal. Imaginons que je me retrouve un jour à un after interfac, car les after interfac datent de l'époque où j'étais étudiante, à parler pendant 30 minutes avec un gars qui, lui, n'a presque jamais eu d'interaction avec des filles du fait de son entourage et de son éducation. Il était juste à bonjour, bonsoir. Évidemment, ces 30 minutes de conversation vont être mille fois plus significatives pour lui que pour moi. Genre, moi, je fais ça plein de fois avec plein de personnes. À cause de l'écart culturel. Et donc, imaginons que ce même garçon vienne me voir quelques mois après, ou quelques semaines après, je ne sais plus, pour me dire... Ça fait longtemps, je suis désolée. Pour venir me voir et pour me parler de cette discussion qu'on a eue à cet after interfac comme preuve qu'en fait, c'est évident qu'il y a un truc entre nous et que je suis intéressée. Quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me dire... Mais franchement, il a un problème, ce mec. On a parlé 30 minutes et le mec s'enflamme, mais il faut faire un truc. On voit ça, on voit des gens, j'en sais rien. Ce que je m'étais dit exactement à l'époque, je m'étais dit, mais enfin, mais il est malaise, quoi. Enfin, si, j'en sais rien. Je me rappelle plus si je lui ai dit, en fait. J'espère que je ne l'ai pas dit. En tout cas, je me rappelle l'avoir profondément pensé. Ou est-ce que je vais être compréhensive? Je vais essayer de comprendre pourquoi lui, il a vécu les choses différemment, avec qui il est, avec son histoire, et lui dire simplement que je suis désolée du malentendu, mais qu'en fait, on est sur un écart de culture, sans le prendre de haut et sans lui dire « Mais t'es con aussi d'être enflammée. » Être compréhensif, c'est se mettre à la place de la personne et reconnaître qu'en fait, comme on a dit, c'est plus l'éducation et la culture qui informe notre façon d'agir, de ne pas tout de suite plaquer notre façon de faire sur les autres, mais d'accepter qu'on peut vivre exactement la même situation et arriver à deux types de conclusions complètement différentes. Et plutôt que de dire « Oui, mais c'est parce que l'autre est stupide », voilà, dire « Peut-être qu'en fait, c'est juste que l'autre a un vécu différent et une éducation différente. » Nous, notre vision des choses, notre culture, on n'est pas le centre du monde. Il y a des tas de gens qui ont des vécus différents, et être bon et être compatissant, c'est accepter ça et agir en conséquence. C'est vrai avec nos amis, et ça reste vrai aussi quand le couple se construit. Enfin, on pourrait faire une soirée entière aussi d'écart culturel, d'éducation dans le couple. Et enfin, être généreux dans ses relations, c'est pardonner. Quand vous êtes blessé, quand quelqu'un a une attitude qui vous irrite, quand quelqu'un est maladroit, pardonnez. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est une requête du Notre Père et ça nous rappelle que nous sommes premièrement à la place de la personne qui doit être pardonnée. Parce que nous aussi, en fait, on fait beaucoup de bêtises relationnelles. Alors, ne vous pensez pas au-dessus du lot. Ne pensez pas que vous n'avez strictement... Souvent, c'est ça qui empêche de pardonner. On pense que l'autre a totalement tort et qu'on est une espèce d'oie blanche. Et donc, on ne voit pas pourquoi, voilà. Mais en fait, nous sommes tous pécheurs. Nous faisons tous des erreurs. Même peut-être dans cette situation, ce n'est pas vous le coupable, mais vous en faites par ailleurs. Donc, ce n'est pas la peine de faire le fier. Pardonnez comme Dieu vous pardonne. Et c'est vrai entre amis. Et c'est vrai aussi dans le couple. Conclusion. Aimez-vous en frères et sœurs comme Christ a aimé ses frères et sœurs. Versets 1 et 2 du chapitre 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Je mets ces versets plutôt comme une conclusion. Je mets ces versets comme une conclusion plutôt que comme une quatrième clé, parce qu'il me semble qu'ils résument un peu tout. On va dire la vérité, dire des choses vraies, utiles et bienveillantes parce qu'on aime. Parce que la personne est plus importante que nous-mêmes et plus importante que notre envie de nous marier. On ne va pas entretenir notre colère parce qu'on aime, parce que le bien-être de la personne est plus important que notre envie de nous mettre en couple. On va être généreux et compréhensif avec tout le monde autour de nous et pas juste la personne qui nous intéresse, parce qu'on aime et parce que la personne est ce qu'elle est plus important que notre envie de nous mettre en couple. Aimons-nous plutôt que seulement de nous désirer. C'est Dieu qu'on doit imiter dans notre relation et pas le monde. L'amour que Paul nous encourage à avoir les uns pour les autres, il est issu de l'œuvre de Jésus pour nous. Et il nous rappelle ici que Jésus, c'est celui qui s'est sacrifié. L'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres, c'est l'amour que Christ a eu pour nous en se sacrifiant. L'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres, c'est un amour inconditionnel et sacrificiel. Il est pour tous, il n'est pas que pour les gens avec qui on veut avoir une relation amoureuse. C'est tout le monde qu'on va aimer et avec tout le monde qu'on va faire des efforts relationnels. Et il demande du sacrifice, ça veut dire qu'il demande de mettre les intérêts des autres avant les miens. Ça veut dire que mon envie de me mettre en couple ne doit pas être la source principale de mes attitudes envers les autres. Ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt de la personne avec qui je suis en interaction et pas le mien, c'est le bien des autres. Si vous voulez ne pas faire n'importe quoi dans vos fréquentations, rappelez-vous que vous, et du coup votre envie de caser, vous n'êtes pas, Dieu merci, le centre du monde. Vous avez l'impression qu'il n'y a que ça en ce moment. Peut-être pas tout le monde, mais peut-être certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'il n'y a que ça en ce moment. Il n'y a pas que ça en fait. Le monde continue à tourner, les gens ils ont des problèmes, il y a des gens qui meurent de faim, etc. Donc le fait que vous soyez célibataire, si vous voulez, bon, voilà. Vous n'êtes pas le centre du monde. Alors, j'ai bien conscience, outre le fait que j'ai été excessivement sarcastique, désolée. J'ai bien conscience de ne pas vous avoir filé le Graal. Il n'y a pas de feuille de route sur comment fréquenter chrétiennement. En fait, il n'y en a pas. C'est pas que j'ai été manque de courage et que vous n'en avez pas donné, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de loi. Chaque histoire va être différente et vous allez l'entendre aussi avec la suite des témoignages. Ça va être simple pour certains parce qu'ils sont simples. Ça va être hyper compliqué pour d'autres parce qu'ils sont hyper compliqués. Ça va dépendre. Il n'y a pas de manuel de fréquentation. Par contre, il y a un manuel de comment vivre chrétiennement. Comment vivre en tant que chrétien. Alors, vivez chrétiennement selon les principes énoncés dans le texte et dans tout le reste de la Bible. Soyez vrai, parlez pour le bien, soyez généreux, compréhensifs, ayez une colère courte et soyez prompt à pardonner. Et vos fréquentations, qu'elles aboutissent ou non au mariage, glorifieront Dieu. Et c'est tout ce qu'on veut, finalement. Merci.